Très bonne soirée sur RFI. L'information continue avec Accent d'Europe. Il est pratiquement 18h10 hier, ici à Paris. Une heure de moins en temps universel.
C'est tout.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Bon, cette fois, il est temps de vous en parler. Lundi prochain, nous serons dans le cadre du festival Premier Plan en direct à partir de 18h. C'est-à-dire que, lundi, si vous arrivez à 18h10, ça aura déjà commencé. On sera avec la quotidienne de Radio Campus Angers pour couvrir le festival Premier Plan. Deux émissions spéciales, celle du lundi 19 et celle du lundi 26 entre 18h et 19h. Voilà pour les infos. Et puis, on en parlera peut-être tout au long de la semaine. D'ailleurs, si Denis, je crois que des choses sont prévues déjà pour notamment autour de Cinéma Sprint. On va reparler Cinéma Sprint.
Oui, tout à fait, on va parler Cinéma Sprint, quand même un événement emblématique du début du festival. Donc on va pouvoir commencer cette première émission avec justement une petite revue là-dessus.
Et côté Radio G, on a même envoyé Maëlys, l'autre service civique de la rédaction, pour être jury carrément presse. Voilà, elle pourra nous faire part aussi de ses impressions, nous donner un aperçu de ce qui s'est passé pendant cette soirée du Cinéma Sprint. Et puis tout le reste de Premier Plan, ce sera à découvrir pendant ces deux émissions spéciales. Ce soir, configuration plutôt classique, voilà, comme tous les mois, on reçoit Loire-Authion, une partie de la commune. On va parler culture et lecture même ce soir. On aura Manon Jouniaux dans quelques instants. On aura aussi Patrice Philippon, le coordinateur de l'action culturelle du réseau des médiathèques de Loire-Authion, qui était venu il y a quelques mois de ça. On aura aussi donc Céline Ducoc pour parler de trois spectacles que propose cette deuxième partie de saison culturelle à Loire-Authion. On aura également, toujours en culture, l'agenda culturel. Suzanne marque son grand retour ce soir dans Topette en alternance avec Jody. Ce soir, c'est elle qui s'y colle. Normalement, vous le savez, Mathéo, toujours plein de surprises. Normalement, il devrait être avec nous en fin d'émission pour une chronique d'actualité. Et sinon, on demandera à Bruno de nous parler de sa nouvelle matinale qu'il propose à Radio G. Topette, c'est parti pour ce soir jusqu'à 19h.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Mais d'abord, un point sur l'actu.
J'ai l'info. L'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire, sur Radio G.
Le recensement de la population démarre ce jeudi 15 janvier, notamment à Loire-Authion. Deux agents recenseurs, qui doivent rester anonymes, iront à la rencontre des habitants. Une mission obligatoire, mais surtout hautement stratégique. Avec 17 765 habitants, Loire-Authion est aujourd'hui la deuxième commune la plus peuplée de l'agglomération angevine, derrière Angers. Le recensement détermine la population officielle et donc les dotations de l'État. Concrètement, plus d'habitants, c'est plus de moyens pour les écoles, les transports, les crèches ou les équipes sportives. À l'échelle régionale, ce recensement prend une autre ampleur. Les Pays de la Loire comptent aujourd'hui près de 4 millions d'habitants. La barre symbolique pourrait être franchie d'ici 2029, selon l'INSEE. Mais attention, la dynamique change. Si la région continue de grandir, ce n'est plus grâce aux naissances, mais aux nouveaux arrivants. Depuis 2022, le solde naturel est négatif. Il y a plus de décès que de naissances. Un tournant historique qui interroge sur l'avenir. Vieillissement de la population, besoins en santé, en logement, en services publics. Autre réalité plus urgente, la précarité sociale. En Maine-et-Loire, le plan Grand Froid a permis à mettre à l'abri environ 500 personnes par jour ces dernières semaines. C'est 20% de plus que l'hiver dernier. Le principal choix des services de l'État est l'hébergement à l'hôtel, jugé plus digne que l'ouverture de gymnase. Les dispositifs restent renforcés avec une priorité donnée aux personnes isolées, aux familles avec enfants et à celles qui échappent habituellement aux dispositifs d'aide. À Angers, la halte de nuit reste ouverte 24 heures sur 24, car même hors crise majeure, la précarité ne prend pas de pause. La campagne, elle, s'exprime. Elle est en colère. Deux agriculteurs du Maine-et-Loire sont actuellement en garde à vue après une occupation pacifique du ministère de l'Agriculture à Paris. Ils participaient à une mobilisation nationale de la Confédération paysanne aux côtés de nombreux paysans venus des territoires ultramarins. Les manifestants dénoncent les accords de libre-échange comme UE-Mercosur, l'emprise de l'agro-industrie et une agriculture de plus en plus déconnectée des réalités paysannes. Malgré le caractère pacifique de l'action, la réponse policière a été massive. Un conflit ancien en France, mais qui prend aujourd'hui une dimension politique et sociale majeure. Et puis, pour finir, une respiration culturelle. À Angers, le festival Premier Plan s'impose une nouvelle fois comme l'événement incontournable de l'hiver. Il débute ce samedi 17 et prend fin le 25 janvier, ce qui promet une semaine chargée en activités. Films, courts-métrages, scénarios, débats, ateliers, le cinéma sous toutes ses formes pour tous les publics. Comme par exemple le cinéma sprint, où des équipes doivent écrire, tourner et monter un film en un temps record. Il reste des places. Donc n'hésitez pas à acheter vos places sur internet avant pour ne pas être pressé par le temps. Premier Plan, c'est depuis 30 ans qu'il défend un cinéma émergent, européen et engagé. Un cinéma qui interroge le monde.
J'ai l'info sur Radio G.
Merci beaucoup Sidonie, j'espère que peut-être qu'on va reparler du cinéma sprint et du festival Premier Plan avec Suzanne tout à l'heure dans son agenda culturel, mais entre temps on va recevoir nos invités, mais surtout avant je vous donne ces infos là, cette information là, la compagnie du Pont d'Ardoise qui propose Un père et père de Ray Cooney, c'est mis en scène par Carole Galisson et Marie-Pascale est venue lundi pour nous en parler, elle l'a très bien fait d'ailleurs. Alors il y a trois lieux, trois représentations, Segré, Avrier, Angers, ça commence le 16 janvier, donc à partir de demain jusqu'au 22 février du côté de Angers. Attention, c'est pas tout à fait les mêmes horaires. On vous encourage donc à prendre toutes les bonnes informations sur leur site internet lepontdardoise.fr. Et maintenant, on peut accueillir nos invités de la soirée.
L'invité de Topette sur Radio G.
On va être avec une autrice dans quelques instants, Manon Jougnot, et puis aussi Patrice Félipon, le coordinateur de l'action culturelle du réseau des médiathèques de Loire-Authion. Mais avant tout ça, on est avec toi, Céline. Bonsoir Céline.
Bonsoir.
Céline Ducoq, tu es coordinatrice artistique et technique de la programmation culturelle, la programmation culturelle, elle. En majuscule Loire-Authion, voilà, c'est ça le petit clin d'œil. On en parle assez régulièrement dans Topette, on se tient toujours informé des actualités, du déroulement de la saison. Alors là, on est sur le deuxième semestre, on est sur la deuxième partie, 25-26, partie 26 évidemment. Comment s'est passée déjà cette première partie jusque-là, tout se déroule comme convenu, les spectacles tiennent la route et le public est au rendez-vous, Céline ?
Eh ben écoute, ouais, on a eu un très beau démarrage de saison avec des salles très bien remplie, voire très complète. On était très contents avec des propositions variées, mais voilà, ça a été un beau démarrage pour nous. Et puis on est content que le public soit présent, réponde et puis vienne découvrir des choses. Donc voilà, on continue en ce mois de janvier. C'est le cœur de l'hiver, donc c'est toujours plus difficile. Bon, il n'y a pas de neige cette semaine, donc il n'y a pas d'excuses, mais voilà. C'est parti.
Les gens se remettent tranquillement dans leur nouveau rythme après cette période bousculante des fêtes. Tu le dis, il n'y a pas de neige. Du coup, il y a trois spectacles, par contre, dont on va parler dans quelques instants. Je m'interrogeais juste avant sur les publics qui viennent à ces spectacles. Est-ce que des fois, ça amène un petit peu de public hors commune? Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a des statistiques, par exemple? Est-ce que l'INSEE s'intéresse à ça?
Alors, l'INSEE ne sait pas sur la question, mais nous, un peu quand même. Oui, on a une part de public qui vient d'ailleurs. Alors principalement, on va dire autour les communes d'autour de Loire-Authion, mais il y a aussi des gens de l'agglomération angevine qui se déplacent en fonction des propositions. Hein, il y a vraiment, voilà, ça varie. Les gens sont parfois prêts à faire un peu de route, comme on traverserait Angers pour aller à l'autre bout. Hein. Loire-Authion n'est pas non plus à l'autre bout du département, donc oui, bien sûr, ça attire.
Oui, même si c'est une zone un peu plus rurale, on reste quand même pas très loin d'Angers. Mais c'est intéressant parce que ça démontre encore une fois à quel point la culture, en plus, est une proposition pour les personnes qui sont sur place, ça participe à l'attractivité aussi de la commune.
Bien sûr, oui, c'est vraiment un élément qui permet aussi au public de circuler, hein, de découvrir. Nous, en plus, la saison culturelle reste itinérante, donc on est sur des lieux très variés, on est à la fois en intérieur et en extérieur toujours, donc voilà, ça permet aux personnes de découvrir la richesse de Loire-Authion aussi.
Céline, tu parles d'itinérance, de circulation, et justement, nous allons parler de cheminement au pluriel. C'est dès ce soir, là, c'est à 20h30, donc c'est dans une heure et demie à peine, d'ici la fin d'émission, et c'est à Cornet. Premier spectacle.
C'est ça. On accueille de nouveaux flops qu'on avait déjà reçus à Brin-sur-Lothion pour un projet qui avait été dans la durée et qui s'appelait Travelling et qui avait fait beaucoup parler de lui. Donc là, c'est un spectacle, c'est une forme plus brève de 50 minutes, mais qui utilise les mêmes ressorts qui sont la lumière, les objets, des points de vue très différents, une grande poésie. Et en effet, c'est un cheminement parce que il nous invite vraiment à une promenade. On suit ce randonneur un peu à travers des paysages toujours aussi magiques.
Au sens figuré. Hein.
Bien sûr.
On sait qu'il y a des randonnées aussi qui sont proposées à Loire-Authion.
C'est ça. Là, on est sur scène uniquement. Et puis c'est plutôt une invitation poétique. Mais comme on aime à dire, dans un temps où on est quand même sur de l'image qui va très vite, où on est très stimulé, là, la proposition est un peu inversée, c'est-à-dire de se poser, de se laisser emporter, de contempler, voilà, ce qui nous est proposé. Et puis c'est vraiment des images qui sont créées en direct. Il a un savoir-faire qu'il a petit à petit utilisé à des fins vraiment de plus en plus précises, on va dire. Et avec son binôme qui est Julie Dumont, au son et qui l'accompagne aussi à la création, il propose voilà, une forme qui s'adresse à tout public.
Alors, il a même inventé une science à part entière, il s'agit de la bricoluminologie. Hein.
Voilà, il aime à s'appeler ainsi, et c'est vrai qu'il bidouille beaucoup. Il essaie, il tente et il a réussi à avoir des petits, de créer des objets vraiment lumineux, éclairés ou qui éclairent et qui permettent d'avoir des choses assez étonnantes.
Alors dit comme ça, ça amène des choses presque enfantines en nous, ça éveille l'imaginaire, c'est pour tout le monde, les grands comme les petits.
C'est ça, c'est vraiment un spectacle alors, qui dans son adresse peut être au départ pour les plus jeunes, mais qui, de par sa poésie et ce qu'il propose, emmène vraiment tout public.
Tu parles de poésie, on va même chanter un peu plus tard, le 30 janvier, avec la brigade d'intervention vocale, avec un K, je ne sais pas si c'est important de le préciser, même des chants populaires a cappella, il n'y aura pas d'instrument.
Non, alors, enfin, elles sont accompagnées de quelques instruments, mais c'est principalement a cappella. C'est six chanteuses, en effet, de la région nantaise. Donc là, on est complet, mais on est très content puisque voilà, c'est une proposition assez féministe, on va dire, et engagée. C'est des voix féminines qui ont fait le choix de reprendre uniquement des chants populaires et engagés. Qui défendent, qui sont souvent des chants de lutte, hein, qui ont alimenté de manière assez forte les imaginaires et les répertoires, et qu'on entend, qui traversent le temps, qui traversent aussi les pays, puisqu'il y en a, voilà, il y a des chants italiens, il y a des chants bien sûr d'Amérique latine, et des chants plus proches de chez nous. Donc, en effet, elles seront là le 30 janvier, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas réservé, c'est déjà complet.
Bon, bah tant pis. En tout cas, si vous étiez déjà en route en direction de la Boale, vous pouvez faire un petit détournement même par la Daguenière, puisqu'on parle du petit détournement le 6 février. Alors, détournement, doublage, il est question de cinéma. Là, c'est pareil, c'est une proposition assez singulière. J'ai l'impression d'en avoir déjà parlé, mais c'était peut-être avec une autre structure.
Alors, c'est une proposition oui, qui tourne, hein, donc a pu être accueillie par d'autres partenaires autour de l'agglomération, qui fonctionne très bien. Voilà, c'est un spectacle que nous-mêmes, on avait accueilli il y a 7 ans à Loire-Authion, qu'on réaccueille de nouveau. Et c'est un spectacle d'improvisation. Donc voilà, on est vraiment sur les techniques de l'impro. La particularité, 3 comédiens sur scène, un musicien. Et en fait, ils découvrent en même temps que le public des extraits de films qu'ils vont devoir doubler en direct. Donc évidemment, il y a des films très variés, très différents. Et ça donne des choses assez cocasses. Ça demande évidemment un savoir-faire qu'ils ont au fil du temps acquis. Et on a, voilà, c'est une proposition drôle, évidemment décalée, et qui donne parfois des choses complètement étonnantes.
Alors c'est un spectacle, reprécisons-le, parce que du coup ça pourrait laisser penser que c'est un atelier. Non, là on va voir des
personnes. Ah non, vraiment, on a 3 comédiens sur scène, le principe de l'impro, hein, qui découvrent et qui vont en direct devant nous, avec les images projetées, doublées des extraits de films.
On a toutes les disciplines, là, quasiment seulement 3 spectacles qui peuvent être représentés, là. poésie, en tout cas le théâtre de presque marionnettes, j'ai envie de dire, d'objets, tout simplement. Le chant et puis le cinéma aussi. Est-ce que, avant de passer au deuxième sujet de la soirée, Céline, tu voudrais aller peut-être un peu plus loin dans la saison, nous donner un petit aperçu d'autre chose ou d'autres actualités?
On enchaînera ensuite par deux propositions pendant les vacances, ce sera les vacances d'hiver pour les enfants. Donc on aura une proposition plus beatbox et danse hip-hop qui s'appelle Autour du Jeune Prince. Donc voilà, c'est pareil, c'est un spectacle là qui fonctionne très bien, deux jeunes, hein, donc moi je vous invite vraiment à découvrir, ils sont très talentueux. Ce sera le 20 février à Saint-Mathurin-sur-Loire. Et puis enfin, Deux Corps et Deux Cordes, une compagnie angevine de cirque, également qui sera présente le 25 février au Sequoia, à l'adresse du jeune public, voilà, n'hésitez pas, c'est un bon programme des vacances.
On comprend mieux pourquoi la chance qu'ont les personnes qui vivent sur la commune ont d'avoir toutes ces propositions. On comprend mieux aussi pourquoi il y a des personnes des autres communes à côté qui viennent profiter de la saison culturelle de Loire-Authion. Merci Céline, tu restes avec nous, hein, s'il y a besoin d'intervenir en cours d'émission. On essaiera de vous libérer un peu plus tôt parce que voilà, faut aussi aller manger le soir. On va passer à Patrice et Manon dans quelques instants. On aura aussi l'agenda culturel de Suzanne, mais avant tout ça, pause musicale. On va reprendre nos esprits. On écoute CCA, CCF de Théophile.
Je me sentais comme une étincelle, à pouvoir allumer mes jours en étant seul. Indépendant, besoin de personne. À défaut, personne à l'interphone. Forcément, quand tu n'entretiens rien, tu ne possèdes rien. Surtout pas la pensée qui t'amène à aimer un autre que toi. Tu pensais être sincère, tu ne connais que toi. Tu te bats pour des frontières, commence par les tiennes. Ouvre tes chakras, étonne-les, montre-leur que tu es sensible, que les crosses t'atteignent, que l'amour t'apaise et que les larmes te montent quand ils t'ont touché. Tu ne montres rien car on t'a appris à vider tes pensées, à retenir ton âme quand elle tente de s'exprimer, à enfermer ton cœur quand il demande à se barrer, se diriger vers une autre personne car il est assez fort pour garder au chaud ton corps, ressentir avec les pores de ta peau la peau d'une autre qui te dévore seulement tes cauchemars, que tu entretiens en restant seul maître de ton vaisseau, de ton vaisseau. Alors tu passes d'une femme à l'autre, tu passes à autre chose dès qu'on te berce, qu'on te gerce les lèvres, quand elle se retire quelques jours sans t'embrasser. Quand ta peau se tend, ton cœur se fend, ta tête se méprend, quand tes pas sont lents, tes gestes ne t'appartiennent plus. Quand tes actes ont des conséquences, de l'importance auprès de quelqu'un d'autre que toi. Et tu penses être fort quand tu te retires, quand tu les tires toutes avec ton arme de charme, avec tes phrases, tes vannes, tes mots, tes grandes idées. Tes conquêtes, tes actes, tes fautes, ta virilité. Mais quand tu rentres chez toi, tu pleures toutes tes larmes. Au moment du coucher, tu pleures toutes tes armes. Alors tu réfléchis tout haut et tu te dis: construire c'est avancer, cumuler c'est fuir. Construire c'est avancer, cumuler c'est fuir. Nous sommes toujours rattrapés par nos démons. Nous sommes toujours rattrapés par nos démons. Mon âme à répartir ma faim qui me forçait à penser à tout ce que j'effaçais en vain. Ce qu'on m'a enseigné, ce que j'ai appris. J'ai tracé mon rein que tu m'avais donné. J'ai transformé mon train pour là où je veux aller. J'ai remballé mon ego qui m'empêchait d'avancer. J'ai simplement pris ton cœur pour ce que tu es. Pas de concession, seulement des efforts. Pas de concession, ça nous rend plus forts. Un couple s'entretient, je te traquerai jusqu'à ma mort. Nous sommes toujours rattrapés par nos démons. Construire c'est avancer.
CCA, CCF de Théophile, vous êtes à l'écoute de Topette.
Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
Ce soir, on est à Loire-Authion, nous sommes à Loire-Authion, on est toujours avec toi. Sidonie, ça va? Tu passes un bon moment?
Bah oui, ça fait toujours plaisir d'écouter les petites actus locales.
Le spectacle de doublage, on en avait déjà parlé, hein?
Oui, effectivement, il y avait déjà eu un spectacle comme ça et c'est toujours intéressant.
Voilà, bon, on réécoutera les podcasts de l'émission pour savoir dans quel cadre c'était. En tout cas, on reste bien à Loire-Authion. Cette fois-là, on va laisser tout ce qui est cinéma, pas culturel, mais plutôt tout ce qui est spectacle de côté. Quoique, puisque nous allons parler maintenant de toi, Manon. Bonsoir Manon.
Bonsoir.
Manon Juniau, tu es autrice, tu es en résidence actuellement à la médiathèque de Loire-Authion, en tout cas sur la commune de Loire-Authion. Donc forcément, nous avons la personne en lien avec la médiathèque. Bonsoir Patrice. Ah, pardon, c'est pas le bon micro. Patrice Félipon, coordinateur de l'action culturelle du réseau Médiathèque.
Bonsoir.
Ça s'était bien passé, votre anniversaire des 10 ans?
Oui, très bien.
Bon. Bah, notamment, il y avait Manon aussi qui était là pour la dernière séance des 10 ans à la médiathèque de Saint-Mathurin-sur-Loire. Donc, du coup, juste avant sa résidence, quoi, pour présenter voilà, sa venue, elle était présente avec un autre auteur qu'elle avait invité.
Et justement, bah on va en parler tout à l'heure, on va parler surtout de la nuit des lectures, non, les nuits de la lecture. Et Manon, tu es encore une fois un peu impliquée d'une certaine façon dans les deux propositions qui sont faites avec la médiathèque. Mais avant tout ça, parlons de ta résidence. Donc si je comprends bien, tu as découvert Loire-Authion tout récemment ou tu connaissais déjà un petit peu le secteur, si ton approche géographique de la commune?
Non, je connaissais pas du tout et je suis venue ponctuellement là pour préparer la résidence depuis septembre. Pour rencontrer les enseignants avec qui je vais travailler auprès des ateliers d'écriture et puis voilà pour les 10 ans du réseau et je découvre, je viens d'arriver donc.
Et le cadre est plutôt sympathique j'imagine avec la Loire, tout ça.
Oui.
La médiathèque elle est où précisément, Patrice? Oui. Peut-être.
La médiathèque elle est dans le bourg en fait, en contrebas un petit peu, non loin en fait de la galerie hors champ où est en résidence Manon, donc c'est juste à côté.
Donc c'est vraiment dans la galerie, plein bourg, c'est précisément en résidence du coup.
Oui, bah j'ai un petit appartement à côté de la médiathèque, mais je peux venir travailler à la médiathèque ou rester chez moi. Voilà.
Alors, on a souvent l'habitude dans cette émission d'entendre parler des résidences qui débouchent à des spectacles. Là, toi en tant qu'autrice, ça veut dire que tu peaufines ton dernier ouvrage, tu participes à des à côté, tu parles d'action, j'ai l'impression, avec des scolaires, avec le territoire aussi. Comment ça marche une résidence en tant qu'autrice?
Là, je vais rester 3 mois à peu près, de manière un peu fractionnée. Je serai là jusqu'à fin mai. Et je vais essentiellement travailler sur mon second roman, mais aussi intervenir auprès d'enfants en milieu scolaire pour faire des ateliers d'écriture avec eux, ou même en résidence autonomie, ou auprès d'un public adulte en médiathèque. Donc, il y a plusieurs actions comme ça qui sont organisées, qui me permettent aussi de découvrir un petit peu les personnes qui vivent dans ce territoire et créer du lien aussi.
Et en quoi c'est important? Ça vient enrichir aussi ton travail en tant qu'autrice ou ça participe à le partager dans les thèmes, les sujets qui peuvent être abordés dans tes écrits?
Pour ce livre-là, il n'y a pas vraiment, par exemple, de lien avec le territoire, mais parfois ça peut arriver qu'on intervienne sur un territoire qui est lié à notre roman. Après, là, moi, c'est vraiment quelque chose que je fais déjà initialement dans ma vie, d'animer des ateliers auprès d'enfants. Par exemple, je trouve ça important de pouvoir leur transmettre un peu cette passion-là. C'est toujours agréable parce qu'ils ont toujours beaucoup, beaucoup de questions. Moi, j'étais avec des enfants ce matin encore et ils sont très curieux, en fait, de découvrir comment on construit un livre. Et ils ont un tel imaginaire que, eux, ils le font, en fait, quasiment tout le temps, de s'inventer des histoires. Donc, ils sont contents de pouvoir en parler.
Donc les ateliers, j'imagine que c'est comme ça que tu commences, tu fais appel à l'imaginaire. Alors on va mettre les ateliers de côté pour l'instant. J'aimerais savoir un peu de quoi parle ce deuxième roman, Martha. En tout cas, c'est le titre provisoire pour l'instant. On va l'appeler comme ça, sans tout dévoiler, parce que j'imagine que peut-être que tout n'est pas encore ficelé, et certainement qu'on n'a pas à dévoiler la fin de l'intrigue.
Non, tout n'est pas ficelé. On va dire que c'est 3 adolescents. Qui vont se rencontrer, se retrouver pour certains d'entre eux, notamment 2 qui se sont connus dans leur enfance. Et en fait, c'est un livre qui parle beaucoup de la relation encore parent-enfant. C'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans mon premier manuscrit, mais et aussi du passage un peu de l'adolescence à l'âge adulte. Et voilà, donc ça parle beaucoup de ça. Il y a 3 personnages, 3 adolescents, Martha, Axel, Lise, qui sont dans le livre. Donc peut-être que le titre ne sera plus Martha, peut-être que ce sera autre chose, mais pour le moment, on peut l'appeler comme ça, ouais.
Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré pour aborder cette thématique précisément, cette configuration de... Ça parle plus que d'une histoire, de récits de personnes, en fait, de vie.
Ouais, je pense qu'il y a un peu... Il y a plein de choses qui m'ont inspirée, mais je pense que déjà ma vie, ce que j'avais envie d'aborder de ce moment un peu important et sensible de l'adolescence, ça me tenait à cœur. Voilà.
Et est-ce que justement dans le cadre de la résidence, il y a des temps qui sont prévus de rencontre avec toi pour éventuellement parler de ton travail actuel ou de ton premier roman? Est-ce que je vois qu'il y a des rencontres littéraires, donc est-ce que justement ce sera l'occasion d'échanger avec toi sur ces points-là?
Oui, avec les enfants, on a parlé de mon premier roman et aussi pour les 10 ans là du réseau, on a aussi fait une soirée où on a parlé un petit peu du premier roman. Après, en atelier, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aussi, comme les gens savent que je suis dans le coin et que je suis là, ils peuvent aussi, on peut aussi créer du lien, ils peuvent me parler un peu seul à seul aussi de ce livre-là, ou le prendre en médiathèque, puisque du coup, il est assez disponible maintenant.
Et Patrice, l'importance d'avoir une autrice active en résidence comme ça pour participer aussi à la médiation avec les publics sur le territoire, ça parle beaucoup plus, j'imagine, quand on a une personne qui est encore active, qui n'est pas que dans la participation d'ateliers, mais qui vraiment sait de quoi elle parle, d'autant plus qu'elle est actuellement en train d'écrire. Quand on anime des ateliers d'écriture, j'imagine que ça renforce le message.
Bah oui, ça permet vraiment de rentrer dans l'univers littéraire de l'autrice et puis de poser des questions sur le contenu du livre, sur le style, comment il a été créé. Donc là, lors de la précédente rencontre qu'il y a eu le 12 décembre, justement, ça a permis de connaître encore mieux l'univers de Manon. Le public était assez nombreux et voilà, ça permet, c'est une bonne introduction justement à cette résidence, quoi.
Manon, tu expliques qu'avec les enfants, c'est ce qui est agréable, ce qui est intéressant, c'est que ils sont très branchés sur leur imaginaire, sur leur imagination, pour justement aller proposer des récits. Alors toi, en tant qu'autrice, est-ce que du coup, ça permet de te garder en activité sur cette capacité, cette ouverture à l'imaginaire que tu avais enfant et que tu cherches, j'imagine, à garder tout au long de ta vie?
Ouais, complètement. Le public enfant, il nous donne beaucoup. On leur donne beaucoup aussi, mais il nous donne énormément en retour, et notamment sur leur sensibilité, leur imaginaire, et puis leur ouverture d'esprit aussi. C'est vrai qu'ils sont toujours tellement curieux de ce qu'on peut leur donner, de capter certaines choses de notre univers. J'ai même pu leur lire un passage du livre qui est pas du tout pour leur âge, et ils sont très à l'écoute et ils notent des choses. Enfin, donc ils sont tout ouvert comme ça à la discussion, et c'est hyper agréable.
Ouais, ça permet des fois de prendre un petit peu de recul aussi sur soi-même, de pas rester dans son ornière. Tu restes avec nous, Manon. On va continuer de parler de ta résidence éventuellement, de trois points qui arrivent, et aussi des nuits de la lecture dans lequel ton premier ouvrage sera en lecture théâtralisée. Et ça, Patrice, tu pourras en parler avec nous. Mais avant tout ça, un petit point sur, on va ouvrir les agendas plutôt cette fois-là pour noter les dates à venir. Et c'est avec toi, Suzanne, pour l'agenda culturel de Topette.
Topette, l'agenda culturel.
Bonsoir, Suzanne.
Bonsoir. Cela fait quelque temps que je n'étais pas venue vous proposer un agenda culturel, mais me revoilà, et au programme ma sélection d'événements immanquables, parmi tant d'autres, de ce mois de janvier. On commence fort, et on a déjà commencé à en vous en parler un petit peu en début d'émission. À partir de ce samedi à Angers, c'est impossible de passer à côté du festival Premier Plan. Pour sa 38e édition, il transforme la ville en véritable capitale du cinéma européen. Pendant 9 jours, du 17 au 25 janvier, les salles obscures accueillent des premiers films qui sont souvent ceux qui révèlent les réalisateurs, réalisatrices, acteurs et actrices de demain. Au programme, compétition de courts et longs métrages, avant-première, hommage et rencontre avec les équipes des films. Les séances commencent à 9h et se terminent à minuit, de quoi satisfaire les lèvres tôt, les couches tard et les marathoniens du film. Mais Premier Plan, ce n'est pas seulement des projections. Ce sont aussi des focus, des rétrospectives, des masterclass et les incontournables ateliers d'Angers du 19 au 24 janvier. Pour la programmation complète et la billetterie, rendez-vous sur le site du festival Premier Plan ou sur celui de la ville d'Angers. Ensuite, cap sur Cholet pour l'événement 24 heures Cholet Jeux, un rendez-vous ludique devenu incontournable depuis 2009. Pendant 24 heures non-stop, du 17 janvier au 18 janvier, la salle d'activité et de loisirs du Val-de-Moine se transforme en véritable paradis du jeu de société. Au programme, jeux de stratégie, de réflexion, d'ambiance et même jeux de rôle pour tous les âges et tous les niveaux. Que vous soyez joueur occasionnel ou passionné inventéré, c'est le moment parfait pour s'amuser, se challenger et découvrir de nouveaux jeux, seul, entre amis ou en famille. Enfin, si vous voulez maintenant passer à l'action et devenir le héros de votre propre aventure, direction Fontevraud, à côté de Saumur, pour une expérience culturelle pas comme les autres. Le musée d'art moderne propose Au-delà, son tout premier escape game. Un jeu grandeur nature qui mêle art, énigmes et voyage dans le temps. Car c'est quand le musée ferme ses portes que les murmures se font entendre. Les œuvres, les époques et les cultures se répondent, des portails spatio-temporels s'ouvrent, et cette fois, c'est à vous de voir au-delà. L'expérience se joue en équipe de 4 à 6 joueurs pendant 1h30, du vendredi au dimanche, entre 10h et 16h. Pour jouer, une seule consigne, venir avec un smartphone chargé qui vous permettra de lancer le jeu. Accessible dès 10 ans, c'est une sortie idéale en famille ou entre amis. De l'écran au jeu, la culture se vit sous toutes ses formes. C'était mon agenda de belles découvertes de la semaine. N'hésitez pas à en profiter et on se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous culturel.
Merci beaucoup Suzanne pour ce point sur l'agenda culturel. On retourne à Laurention.
Topette avec Pierre Benoît.
Alors on continue de parler de cette résidence de Manon Junio, Manon qui est avec nous en studio. Donc résidence qui va durer 3 mois. Tu as commencé à venir pour les 10 ans de la médiathèque, c'est ça, si j'ai bien compris, du réseau des médiathèques de Loire-Authion. Pour résumer un tout petit peu, là tu à la fois travailles sur ton dernier ouvrage, ton prochain ouvrage qui normalement, enfin pour l'instant le nom de code c'est Martha, qui pourrait évoluer, et en même temps tu participes à des ateliers d'écriture notamment. Est-ce que il y avait d'autres choses à rajouter par rapport à cette résidence, des choses que tu aimerais peut-être mettre en place, voir, profiter de ce temps aussi hors de parce qu'on est loin de chez toi, j'imagine que ça permet aussi d'éveiller son esprit, de peut-être que ton imaginaire aussi se met plus en alerte quand on est loin de la maison.
Oui, bah c'est très bien résumé. C'est exactement comme ça que ça va se dérouler pour moi ces prochains mois. Ça va être des rencontres avec des publics et surtout beaucoup de temps pour me consacrer à mon roman. Et c'est une grande chance du coup d'avoir pu être sélectionnée pour cette résidence parce que ça m'offre beaucoup de temps et de liberté pour aboutir à ce projet qui me tient à cœur et qui me demande évidemment beaucoup de temps.
Et si on a envie de te découvrir ton travail autrement ou en hors de cette résidence, est-ce que tu as, je sais pas, des réseaux sociaux, un site internet? Comment on peut te découvrir en dehors de cette résidence à Loire-Authion?
Oui, j'ai les réseaux sociaux. On peut me contacter sur Instagram ou Facebook. Enfin, et puis on peut lire le livre. Ou alors, si on est à Saint-Mathurin, on peut me croiser. Voilà, échanger avec moi.
Voilà, Manon Junio. Donc criez Manon dans les rues de Saint-Mathurin,
hein,
peut-être qu'elle vous répondra. Sinon, c'est du côté de la galerie Orchamp que tu zones. Ou alors, il y a cette date-là du 24 janvier à 18h, puisque là, on va slider tranquillement vers les nuits de la lecture. Patrice, on va parler de il y a qu'une date, mais il y a deux événements qui sont proposés le même soir. Ça commence à 18h et il y en a un autre à 20h30. Et à 18h, justement, le premier roman de Manon sera théâtralisé. Alors, lecture théâtralisée, ça veut dire que ce sont des comédiens, comédiennes qui s'en emparent, ou est-ce qu'il y a encore plus?
Il y a deux comédiennes, en fait, de la compagnie Moreau Sphinx, en fait, qui vont mettre en voix des extraits, en fait, du premier roman de Manon, Échappé. Manon sera également présente à cette lecture théâtralisée. À la suite de la lecture, il y aura un échange avec Manon et puis les comédiennes sur ce travail d'adaptation, sur cette lecture théâtralisée qui sera en musique également.
Ah, théâtralisée et musicalisée du coup,
ouais.
D'une certaine façon. Manon, t'as déjà vu cette configuration d'autres artistes s'emparer de ton œuvre pour la mettre en forme différemment?
Non, c'est la première fois et j'ai pu les rencontrer, les deux comédiennes, et je suis assez contente de ça et j'ai hâte de voir ce qu'elles vont proposer à partir du coup du premier chapitre. C'est vraiment le premier chapitre qui va être mis en voix.
Ça va te faire bizarre, j'imagine, parce que quand on écrit, on se met à nu d'une certaine façon, même si on ne raconte pas forcément son histoire à soi. Donc là, ça va être une sorte de mise en perspective assez intéressante.
Oui, et en même temps, ça fait du bien de voir d'autres personnes s'emparer de ça, parce que finalement, moi, je ne fais qu'en parler tout le temps. Et donc là, au moins, il y a une autre proposition qui se joue. Et le but, c'est de ne pas être possessif vis-à-vis de son œuvre, d'un livre qui a été écrit et publié il y a maintenant un an et demi. Et justement, de voir d'autres choses qui se passent avec, c'est chouette. Moi, je suis contente.
À 18h, à la médiathèque d'Andar, par la compagnie Moreau Sphinx. Voilà, Patrice. Alors, on va peut-être reprendre les choses dans le bon ordre. Les nuits de la lecture. On en a un peu parlé mardi avec la médiathèque de Laurent-Loup et Sidonie. On peut rappeler ce que c'est? C'est un événement national?
Oui, c'est un événement national qui est organisé par le Centre National du Livre, qui dépend du ministère de la Culture. Et ça a lieu tous les ans, à peu près voilà, la même période, là, autour de cette date. Nous, c'est la troisième année qu'on y participe à Loire-Authion. Voilà, donc à chaque fois, on propose des formes différentes. Cette année, justement, comme on accueille Manon en résidence, on s'est dit que c'était bien de faire quelque chose autour de son premier roman, quoi.
Alors, il y a qu'une seule nuit, par contre, sur Loire-Authion?
Oui, alors là, oui, on a tout regroupé, ouais, sur une seule journée.
Parce qu'à 20h30, ça, on l'a pas encore tout à fait dit. Qu'est-ce qui se passe? Ça continue? Alors là, on va plus être en lecture, on va être en dictée.
Oui, on va être en dictée, un spectacle, une dictée théâtralisée, loufoque, avec un duo de comédiens de la compagnie Ramdam. Donc là, c'est tout public à partir de 10 ans. Du coup, il y aura une cinquantaine de personnes qui seront amenées à faire une dictée. Voilà.
Et est-ce que tu connais le nom des deux comédiens de la compagnie Ramdam ? On en a reçu aussi, je crois, dans Topette. Je ne sais plus comment tu dis, Céline ?
Il y a Thomas Bonardo. Oui. Et j'ai perdu.
Éric Lebras.
Lebras, voilà.
Bah je crois que c'est Thomas qui était venu.
Donc ça promet.
Ça promet.
Oui, ça promet, c'est drôle, c'est décalé. Et à la fois, c'est un exercice assez sympa de la dictée. Il y a des fans de dictée, hein, il y en a qui détestent ça. On est un certain nombre à être traumatisés de l'école, mais il y en a pour qui, voilà, c'est un exercice un peu nostalgique. Donc voilà, ils s'en amusent.
Je suis presque prêt à parier que c'est les mêmes personnes qui font les mots fléchés. Je ne sais pas pourquoi, mais on pourrait faire une statistique.
Ah bah, ils ont plusieurs spectacles.
Patrice, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, je voulais dire oui, c'est une manière de faire une dictée qui sort de l'ordinaire. Quoi. On est dans un spectacle, hein. C'est pas une dictée figée.
Mais c'est pas noté, voilà. Ça compte pas. C'est pas comme Suzanne et c'est partiel, par exemple. Là, on est sur c'est quelque chose de très léger.
C'est pas scolaire, voilà.
Voilà. Bon, en tout cas, comment ça se passe si on veut participer à cette nuit de la lecture dans les médiathèques de Loire-Authion 18h et 20h30, on doit réserver avant. C'est payant. Oui. On doit faire partie.
Alors, c'est
de la
gratuit. Les animations en bibliothèque sont gratuites et du coup, c'est sur réservation en envoyant un mail à médiathèque. @loireauthion.fr ou en allant sur le site de la commune ou le site du réseau des médiathèques. Voilà, il y a toutes les infos également sur la résidence de Manon.
Est-ce que tu voulais rajouter des choses, Patrice, que ce soit sur la résidence de Manon, sur ces nuits de la médiathèque, sur d'autres actualités des médiathèques, du réseau des médiathèques de Loire-Authion ?
Eh bien, la résidence de Manon, il y aura aussi d'autres rencontres qui auront lieu dans le courant de cette résidence. Ça, on communiquera dessus sur notre site internet prochainement pour annoncer les autres rencontres qui se feront notamment en lien avec la librairie de Saint-Mathurin-sur-Loire.
Eh ben, tout est dit, presque en tout cas, on se tiendra informé bien sûr. Patrice Philippon, coordinateur de l'action culturelle du réseau des médiathèques avec ce grand S majuscule entre crochets, il fait partie de la graphie officielle, hein, Patrice.
Oui, il y a 7 bibliothèques et médiathèques dans le réseau, voilà, c'est aussi pour mettre en avant tous ces établissements. Quoi.
Voilà, donc à l'oral, il faut qu'on le précise qu'il y a un S majuscule, sinon on ne l'entendrait pas. Merci beaucoup d'être passé dans Topette ce soir. Merci Manon aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Manon, sur la suite de ta résidence, la suite, le poste Martha aussi, hein, une fois que tout ça se sera fait, est-ce qu'il y aura d'autres projets qui vont naître ou qui sont déjà en toi?
Ouais, pour le moment, on va essayer d'aboutir à ce roman, puis on verra pour la suite. Hein. Chaque jour en son temps. On peut me souhaiter que ça se passe bien et que ça me permette d'avancer dans le roman et de vivre de belles expériences avec le public d'ici.
Eh ben, on souhaite en tout cas que tu passes un très bon moment, un très bon séjour à Loire-Authion qui t'incitera à revenir par la suite. Merci d'être passé dans Topette aussi ce soir. Céline, avant de se quitter, sur les 3 dates qu'on a évoquées, peut-être quelque chose à rajouter ou des infos pratiques?
Eh ben, moi, je voudrais juste rajouter qu'on aura aussi, on accueille des compagnons en résidence et on aura Mathieu Mallet, qui est magicien, qui vient créer son prochain spectacle, 22h22. Et juste une petite information, il fait ce qu'on appelle nous une sortie de résidence, une petite présentation, le 5 février à 19h, c'est une étape de travail, donc c'est gratuit, mais il faut simplement s'inscrire au préalable. Donc toutes les infos sont sur loire-authion.fr et notre mail c'est culture@loire-authion.fr.
Très facile à comprendre, c'est la même mécanique que pour la médiathèque si j'ai bien compris,
c'est ça,
loire-authion.fr. Merci beaucoup Céline Ducoc, coordinatrice artistique et technique de la programmation culturelle de Loire-Authion, d'être passée dans Topette ce soir. On se dit au mois prochain, peut-être pas avec vous, peut-être avec d'autres personnes. En tout cas, on retrouvera Loire-Authion le mois prochain dans Topette. On envoie une petite pause musicale, juste le temps de laisser Mathéo s'installer, car oui, il est finalement arrivé. On écoute Je pars de Gris Corna qui en vient ensemble juste après.
Voilà, je pars. Quelques souvenirs, 50% coton, 50% mystère de la ficelle en couteau. Voilà, je pars, bagages sous la peau. Le soleil est doux, je prends la route, mon nez dans ton cou. À l'ombre de la roue, des jours qui s'ensuivent. À l'ombre de la roue, des jours qui s'ensuivent. Je m'accompagne, le temps s'allonge. je ne les compte plus, les kilomètres de songe. Au va, le petit vélo va, un pas, un battement d'air.
Je pars de Gris Cornac sur le 101.5 FM. Vous êtes à l'écoute de Topette. Cette petite musique, juste le temps que Mathéo s'installe. On fait maintenant la chronique d'actualité.
Ce midi, quelques dizaines de personnes étaient rassemblées devant le palais de justice d'Angers. Cela ne vous a peut-être pas échappé. Alors pour comprendre ce rassemblement, il faut revenir plus d'un an en arrière. Rappelez-vous, dans la nuit du 21 au 22 novembre 2024, le mouvement Extinction Rébellion avait réalisé une nuit blanche durant laquelle ils avaient enlevé des centaines d'affiches publicitaires avec l'idée d'offrir aux Angevins un week-end sans pub à une semaine du Black Friday. Alors j'ai pu échanger avec deux membres du mouvement Extinction Rébellion par téléphone. Eux ont souhaité rester anonymes, mais tenaient tout de même à revenir sur les revendications portées lors de cette nuit blanche.
On a toujours l'impression qu'on ne les voit pas, les pubs, mais elles sont là dans le coin de l'œil. Et puis bah, d'avoir un écran blanc au lieu d'avoir une publicité, bah, ça interpelle. Et c'était un peu le but de l'action. Et donc on a décroché plusieurs centaines de publicités ce soir-là.
La date était prévue pour justement faire une action contre la pub et contre le Black Friday, communément. Parce que comme les deux sont très liés, souvent il y a beaucoup de pubs au moment du Black Friday, c'était l'occasion de lier les deux, et donc c'était le mot d'ordre dans l'action, c'était vraiment de dénoncer les deux en même temps d'une pierre deux coups.
Alors vous allez me dire, pourquoi plus d'un an après, cette nuit blanche revient sur le devant de la scène, surtout que j'en avais déjà parlé dans Topette à l'époque. Et bien en fait, l'entreprise JC Deco, que vous devez sans doute connaître, on parle d'un mastodonte au chiffre d'affaires annuel proche du milliard, gérant un peu plus d'un million d'emplacements publicitaires dans 80 pays partout autour du globe. Et bien cette entreprise a porté plainte contre trois militants qui avaient participé à cette action. Ces derniers ont été repérés sur des caméras de surveillance par la police alors qu'ils se trouvaient au niveau de la mairie d'Angers. Contrôlés, ils ont été par la suite auditionnés après la plainte de JC Deco avant d'être jugé aujourd'hui pour des faits de soustraction frauduleuse d'affiches publicitaires, d'où le rassemblement. Eux risquent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour ces faits, contre 1 500 euros d'amende pour des dégradations dites douces, qui étaient plus de mise dans ce type d'affaires. Alors malgré ce procès, les militants d'Extinction Rébellion ont à nouveau réalisé en 2025 une nuit blanche, aux mêmes dates qu'en 2024. Une question se pose alors, pourquoi ces militants se retrouvent devant la justice et risquent aussi gros pour avoir enlevé des affiches publicitaires, pour avoir fait souffler les Angevins le temps d'un week-end? La réponse tient en deux mots, la désobéissance civile, c'est le nom que porte l'action militante réalisée par Extinction Rébellion. Alors pour vous la faire simple, il y a cinq piliers immuables dans la désobéissance civile. Le premier, c'est l'illégalité, ces actes enfreignent la loi sans forcément critiquer l'existence même de la justice, mais plutôt son laxisme sur beaucoup de sujets. Et bien ensuite, la non-violence, personne ne s'en prend à l'intégrité physique d'autres individus. Alors la seule zone grise dans notre joli monde capitaliste repose sur les biens matériels, désarmement pour les uns, dégradation pour les autres. On a aussi l'intérêt général qui est important. Il y a de véritables motivations politiques derrière la désobéissance civile. On ne parle pas de vol d'affiches publicitaires pour décorer son salon, mais plutôt de la dénonciation de la publicité agressive. L'acceptation de la sanction est peut-être le point aussi le plus important. On parle de militants qui se mobilisent pour les autres et qui prennent des gros risques en ce sens. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit, mais ces actions naissent aussi et surtout parce que des études sont réalisées sur des sujets et permettent des revendications. Pour la nuit blanche, par exemple, Extinction Rébellion utilise le programme de l'environnement de l'ONU qui précise que la pollution lumineuse mondiale endommage les écosystèmes. Le rapport de l'Académie nationale de médecine pollution lumineuse et santé publique qui pose les bases scientifiques d'une préoccupation importante de santé publique. Et puis le rapport modélisation et évaluation environnementale des panneaux publicitaires numériques de l'ADEME datant de septembre 2020 et tant d'autres. Alors quand on lit tous ces rapports, c'est effectivement difficile de rester passif. Alors la désobéissance civile ne fuit pas le tribunal, preuve de sincérité. Défendre un bien commun, c'est surtout une qualité, puisqu'il faut passer de ce qu'on appelle le NIMBY, donc not in my backyard, au NIABY, not in anyone backyard. Passer donc de l'égoïsme à l'altruisme. Il faut aussi prendre en compte l'aspect collectif de la chose, c'est le dernier point. Les actions se font à plusieurs, c'est aussi en cela qu'elles reflètent un mouvement de société, bien que les militants soient souvent qualifiés d'extrémistes par les politiques. Alors moi, je vous pose la question, qui est le fou entre celui qui accepte la pollution du champ visuel de sa population dans des temps où la pauvreté s'accentue, sans pour autant que la vie soit moins chère, en sachant donc consciemment que cela pousserait à l'achat des gens qui ne peuvent pas se le permettre, créant in fine de la pauvreté sur la pauvreté et de véritables fractures sociales sur dos de la santé des uns et des autres, tout en détruisant des écosystèmes, ou celui qui retire des pubs? Alors des hommes ont fait ce genre d'action en solitaire, et cela va me permettre de prendre ma machine à voyager dans le temps pour vous parler de celui qui a posé les bases de la désobéissance civile. C'est Henri David Thoreau. Alors, il est connu grossièrement pour son livre Walden ou La vie dans les bois, sorti en 1854, une œuvre philosophique assez particulière qui relate toutes les pensées du philosophe lors de son séjour au bord de l'étang de Walden. Alors, si j'avais le mot marginal facile, je l'aurais utilisé, mais je trouve qu'une de ses citations le définit bien. Je ne suis pas né pour qu'on me force, je veux respirer à ma propre guise. Cette dernière provient de son autre grand succès, sorti 5 ans plus tôt et qui, vous me voyez venir, se nomme La désobéissance civile. Il faut savoir que 3 ans plus tôt, en 1846, Thoreau refuse de payer un impôt par principe, en disant au précepteur local qu'un certain Sam Staple qu'il ne pourrait être associé sans honte au gouvernement américain, lequel menait 2 actions répréhensibles pour Thoreau à l'époque, une guerre contre le Mexique et l'esclavagisme. Il sera arrêté, emprisonné, chose assez drôle, il aurait engueulé le geôlier en sortant de prison, furieux que quelqu'un ait payé sa caution. Il publiera donc ensuite son essai sur la désobéissance civile en 1849, avec beaucoup d'idées majeures encore de mise aujourd'hui. Pour lui, par exemple, la loi n'est qu'un code administratif, elle a donc des failles, souvent injustes, et n'a pas la noblesse de la conscience morale qui, elle, est infaillible. Il voit donc l'obéissance aveugle comme une faute morale, c'est peut-être l'idée la plus répandue de Thoreau, hein, dont les incarnations historiques font date, avec des visages comme Rosa Parks, Martin Luther King ou encore les suffragettes. En France, on pourrait aussi parler du manifeste de T343, le corps n'appartient pas à l'État, l'interdiction de l'avortement est immorale et la loi doit être changée, quitte à lui passer dessus fièrement, c'était tout le message à l'époque. Thoreau utilise aussi la métaphore de la machine, il voit l'État comme une machine industrielle froide avec laquelle on ne peut pas discuter, dans laquelle il faut faire usage de son propre corps pour arrêter le mécanisme. Il complète aussi cela en parlant d'un autre concept, celui de la majorité de l'homme. Il ne faut pas attendre qu'une majorité se dessine quand la vérité s'impose d'elle-même. La désobéissance civile a depuis tout de même changé, emprunte plutôt les codes plus doux de la désobéissance civique portée par Étienne Balibar. Pas de rejet étatique, mais plutôt une volonté de refonte, dire que les gouvernements ne fait pas son travail, trompe, alors nous les mettons devant le fait accompli. C'est bien sûr un choix que nous expliquent les deux membres du mouvement Extinction Rébellion Angers.
La loi, elle évolue de façon tous les jours. Hein. Tous les jours, on entend parler des lois qui sont votées à l'Assemblée, donc il n'y a rien de figé dans la loi. Si on va faire des expériences civiles, c'est parce qu'on estime que ça va assez vite aussi pas dans le bon sens. Il y a une majorité aujourd'hui qui pour nous sabote un peu notre avenir. Il y a une majorité de politiciens aujourd'hui, et il y en a de plus en plus qui vont pas dans le bon sens de l'histoire, quoi. Et c'est ça qu'on veut dénoncer par nos actions.
Nous, la désobéissance civile, c'est un moyen, mais derrière, là où Greenpeace et FNE vont plutôt faire du lobbying, de la relation, faire passer des lois en discutant ou juridiquement faire avancer les choses, c'est tout le monde prend sa part dans l'avancée de la société. Et la désobéissance civile, c'est juste un des moyens de faire avancer. C'est pas le moyen. Et de manière plus générale, Extinction Rébellion, c'est la désobéissance civile, mais ça revêt tellement de choses différentes que ça veut pas forcément dire qu'on est dans l'illégalité à chaque fois. Donc, c'est-à-dire qu'il y a parfois, on fait des actions qui sont légales. Voilà. Juste, par exemple, comme on déclare, il y a des actions comme la grande braderie qui consiste à dénoncer la surconsommation de vêtements, où on déclare à la mairie qu'on va s'installer à un endroit pour offrir des vêtements gratuits en lien avec Emmaüs.
Une grande braderie qui reste pour l'instant au stade de projet, mais qui devrait voir le jour cette année. Alors si on en revient à la justice et à ce procès, moi quand la maison de mon voisin brûle, j'ai le droit de casser la porte pour éteindre le feu ou sauver des vies. Alors pourquoi quand on parle de notre planète qui elle aussi brûle, nous n'aurions pas le droit de tout faire pour limiter la casse? Est-ce un devoir? Est-ce un délit? Montesquieu disait: une chose n'est pas juste parce qu'elle est la loi, mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. Alors interrogeons nos pensées, questionnons notre morale sans jamais renier les autres et agissons en ce sens. Sinon nous ferons de Jean Bondol et Nicolas la bataille des plasticiens prémonitoires de l'apocalypse. Et je ne sais pas vous, mais moi l'idée ne me plaît pas trop. Pour l'instant, j'espère juste revenir dans 2 semaines, en espérant donc que dans ce court laps de temps, quelqu'un ne transformera pas le monde en pandémonium, car moi je vois quelqu'un à l'ouest qui en serait bien capable.
Et ben voilà de quoi faire une ouverture philosophique pour le plus grand plaisir de Suzanne et toutes les personnes qui ont eu en partiel des sujets philosophiques. Vous n'avez pas les rêves, c'était hors antenne, mais en gros, vous allez vous faire votre chemin tranquillement. Merci beaucoup, Mathéo.
Avec plaisir.
À dans 2 semaines, je pense que d'ici 2 semaines, non.
On se reverra avant, premier plan, Pierre Benoît.
Oh, mais oui,
c'est
vrai.
Je vais être beaucoup présent.
Ah bah oui, beaucoup présent, c'est lui qui... Il a racheté premier plan, voilà.
Voilà.
Il fait partie de... Non, non.
J'ai racheté tous les micros, ils sont tous à moi.
Mais tu fais bien d'en parler, puisque du coup, lundi prochain... 18h, 19h, en direct depuis le studio de Radio Campus Angers. On sera sur les deux fréquences en même temps. D'ailleurs, Suzanne, normalement, premier plan. Ouais, petit. T'as une séance qui t'a tapé dans l'œil ou pas?
Bah, je me suis pas encore trop renseignée, sachant qu'aussi, c'est déjà prévu parmi mes cours d'aller voir premier plan. Donc, faut caler tout ça, mais normalement, ça va se faire, oui.
Bon, peut-être Suzanne aussi sur une de ses émissions. En tout cas, Sidonie, dès lundi prochain avec Cinéma Sprint. Et puis, bah, on se donne rendez-vous justement 18h et non pas 18h10 lundi prochain. Prenez soin de vous, bon week-end et à lundi. Topette.